France Inter. Le 6-9 du week-end. Delvaux.
Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Vous êtes l'une des rares femmes rabbins de France. Rare, parce que vous êtes combien? 4, 5?
On est 4 maintenant, mais plusieurs sont en formation actuellement.
Vous êtes issue du mouvement juif libéral de France. Vous avez beaucoup écrit sur l'antisémitisme et votre dernier livre nous propose rien de moins que de comprendre le monde. Comprendre le monde, c'est le titre donc de cet ouvrage qui paraît chez Fayard dans la collection des petites conférences. Comprendre le monde à partir des légendes, des mythologies, des contes et des textes religieux, parce qu'on ne peut comprendre le présent qu'au regard du passé. C'est ça la vocation de ce livre?
Oui, ce livre au départ, c'est une conférence que j'ai donnée pour des enfants et pour leurs parents, qui est devenue ce petit livre. Il y avait cette idée, voilà, qu'il fallait trouver moyen de lier les générations entre elles, et que finalement, il n'y a rien qui lie mieux les générations entre elles que les histoires qu'on se raconte. En fait, on sait tout ça parce que c'est ce qu'on fait avec nos enfants, c'est ce qu'on a reçu quand on était enfant. Finalement, les histoires qu'on nous raconte créent du lien et du lien et nous permettent, oui, effectivement, de comprendre le monde et le monde en changement. Et j'ai essayé de démontrer ça à la lumière de textes religieux et pas religieux du tout.
Et d'ailleurs, vous interrogez, il n'y a pas que des textes religieux, il y a aussi les contes, et vous interrogez la célèbre formule « il était une fois » pour dire que finalement, ce qui est arrivé une fois peut trouver écho aujourd'hui encore dans notre monde contemporain.
Oui, c'est une phrase étrange, ce « il était une fois », finalement, on a cessé de l'interroger. Pourquoi est-ce qu'on utilise de l'imparfait « il était une fois » On devrait dire « il fut une fois ». L'imparfait en français, ça sert à raconter quelque chose qui s'est souvent passé. On dit « quand j'étais petite, je mangeais de la soupe, j'écoutais mes parents », ça c'est de l'imparfait parce que ça se reproduisait constamment, a priori. Donc si on dit « il était une fois », ça veut dire que les histoires qu'on raconte ne se sont pas passées une fois, qu'elles se sont passées des tas de fois, et si elles se sont passées des tas de fois, c'est qu'elles continuent de se passer et qu'elles pourraient encore se passer. Donc ça crée voilà la notion, à travers un seul mot ou une expression, d'une répétition dans l'histoire.
Et cette ambiguïté temporelle d'ailleurs entre le passé simple, imparfait, et le présent, pour un rabbin comme vous, Delphine Horviller, vous dites que c'est presque devenu une obsession. Pourquoi parler d'obsession dans ce cas?
Moi, ce qui m'obsède aujourd'hui, et de ça, ça a une résonance politique particulière, c'est qu'on a l'impression que beaucoup de gens ont perdu la conscience d'une continuité dans le temps, précisément. Il y a des gens qui se retrouvent coincés entre une nostalgie du passé d'un côté, c'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce que c'était bien avant, et comment ça se fait que le monde a changé aussi vite.
L'esprit passéiste.
Oui, qu'on retrouve décliné de mille manières, parfois de façon même charmante dans notre société. Il y a un goût particulier pour le vintage. On aime bien tout à coup se raconter des histoires telles qu'elles étaient, le monde tel qu'il était. Parfois, il y en a des déclinaisons politiques plus étrange, on l'a vu surgir dans des slogans ces dernières années, une nostalgie particulière du monde d'avant qu'on fantasme, qu'on se raconte, même si on ne sait pas exactement le dater. Donc il y a d'un côté une nostalgie très forte, de l'autre côté une passion de la technologie, de l'innovation, du monde tel qu'il pourrait surgir. Et finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont coincés comme pris en étau entre ces deux narratifs. Un qui vous dit c'était vachement mieux avant et l'autre qui vous dit ce sera vachement mieux demain. Et c'est difficile dans ces conditions, je trouve, pour la jeune génération, mais peut-être pour chacun d'entre nous, de faire le lien et de percevoir une continuité dans l'histoire.
Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte et en même temps vivre sa vie au XXIe siècle, c'est ça?
Oui, en fait, alors le souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, c'est un récit fondateur du judaïsme, c'est le récit central de l'Exode dans la Bible, de ce peuple qui sort d'un état d'esclavage pour se mettre en route vers la liberté. Mais quand les Juifs se racontent cette histoire, ils se la racontent tous les ans au moment de la fête de Pâques, un moment particulier, familial, ce qu'ils disent très précisément, c'est que nos ancêtres ne sont pas sortis d'Égypte autant que nous devons en sortir nous-mêmes. C'est-à-dire que les récits qu'on fait semblant de raconter comme étant des histoires du passé, en fait, nous disent « attention, ils te concernent directement ces récits. Pose-toi la question toi-même de comment tu es sorti d'Égypte, de quel est ton pharaon, quel est ton esclavage
à toi. »
Et
quel
chemin tu choisis pour en sortir? De quelle manière une histoire, encore une fois, qu'on fait semblant de raconter au passé, en fait, est une histoire pertinente pour aujourd'hui, à condition, parfois, de l'interpréter de façon impertinente. Parce qu'en fait, c'est ça, l'interprétation impertinente, c'est-à-dire renouveler, questionner, interroger, et ce qui permet de conserver la pertinence des textes qu'on est en train de lire.
Cette fuite des Hébreux d'Égypte poursuivis par l'armée égyptienne, ce miracle de la mer Rouge qui s'ouvre, ça pose aussi la question de la vérité ou de la non-vérité au moment où on veut transmettre les histoires. Comment on tient compte de ça?
Eh bien, je crois qu'on tient compte de ça parfois en établissant une distinction entre la réalité et la vérité.
C'est-à-dire parfois, ou la fiction.
Oui, voilà. En fait, il y a beaucoup de gens vous disent oui, mais par exemple cette histoire de sortie d'Égypte, et encore une fois, ce que je vous dis là peut s'appliquer à bien d'autres récits de la Bible. On vous dit mais enfin c'est pas réaliste. Et puis d'ailleurs, la sortie d'Égypte, on n'a aucune preuve archéologique que ça s'est passé, etc. Et c'est là où c'est intéressant de distinguer entre la réalité et la vérité. C'est pas parce qu'on n'a pas de preuve de la réalité d'une histoire qu'elle s'est peut-être pas passée réellement, qu'elle ne dit pas quelque chose de l'ordre de la vérité, c'est-à-dire de la nécessité de se mettre en route, de la conscience qu'il y a une possibilité pour chacun d'entre nous, individuellement ou collectivement, d'opérer une libération, voilà, de sortir d'une certaine aliénation. Tous ces récits, finalement, sacrés qu'on se raconte, ne sont pas sacrés autant parce qu'ils ont eu lieu que parce qu'ils disent quelque chose de la condition humaine.
C'est pour ça que vous dites qu'ils sont inouïs, c'est parce qu'on n'a jamais fini de les comprendre.
Oui, je crois qu'ils sont inédits et ils sont inouïs littéralement parce que en fait, ils n'ont pas fini de dire tant que le prochain lecteur n'est pas arrivé. C'est pour ça que moi, il m'importait et il m'importe toujours d'en parler aux enfants parce que la nouvelle génération de lecteurs est toujours celle qui a entre ses mains le pouvoir de faire dire au texte autre chose. Ça peut paraître fou parce qu'on se dit le texte, finalement, il reflète l'intention de l'auteur, on lui a déjà fait dire tout ce qu'il pouvait dire. Eh ben, pas du tout. C'est vrai avec les textes religieux, c'est vrai avec la littérature en général. Je trouve que le lecteur a entre ses mains un pouvoir que l'auteur n'a pas, parce qu'il va pouvoir, dans un contexte nouveau, faire dire au texte quelque chose qu'il n'a jamais dit.
Et vous le dites, y compris l'histoire religieuse qui doit être relue, elle a le droit à sa réélecture, à sa relecture, pardon, selon les siècles.
Oui, c'est intéressant, pratiquement le jeu de mots que vous venez de faire, c'est qu'en fait, pour moi, le sens du mot religieux, et c'est pas moi qui l'ai inventé, et Cicéron en parlait très très bien, certaines personnes nous disent que le religieux, c'est ce qui relie les gens. Mais Cicéron nous dit non, le religieux, c'est la capacité de relire. C'est-à-dire que le religieux est une capacité d'opérer une relecture.
Et ce qui est valable dans cette relecture de la religion, ce qui est valable pour les rabbins, est aussi valable pour les prêtres ou les imams ?
Je crois que c'est valable pour tous, mais c'est pas exprimé de la même manière ou avec les mêmes mots dans certaines traditions. Alors c'est vrai que dans la tradition juive, peut-être qu'on est plus à l'aise avec cette idée parce que la tradition juive, elle est centrée sur l'idée d'une réinterprétation permanente et d'un éloignement évident de la littéralité du texte. Donc il y a certaines traditions religieuses qui sont moins à l'aise avec cet éloignement de la littéralité. Ils pensent qu'il faut coller beaucoup plus à ce que le texte semble dire. Pour les rabbins, c'est pas le cas. Les rabbins, ils considèrent que ce qui compte, c'est ce qu'on a fait dire au texte, beaucoup plus que ce qu'il veut dire. Et comment est-ce que finalement, chaque génération apporte un renouveau de sens?
C'est aussi dans cette tradition-là que vous trouvez une identité juive?
Oui, alors ça c'est une question piège un peu parce que en réalité on est bien en peine de définir ce qu'est cette identité juive. Vous voyez, dans le mot identité, il y a un problème consubstantiel, c'est que les gens s'imaginent qu'une identité c'est quelque chose qui reste identique. Vous l'entendez, identité, identique, c'est le même mot en français. Or le propre d'une identité, à mon sens, c'est que quelque chose ne reste pas identique. C'est que c'est toujours un mouvement, un voyage, peut-être une sortie d'Égypte, on utilisait cette expression tout à l'heure. Je crois que c'est impossible de définir ce qu'est l'identité juive. Peut-être que c'est impossible de définir ce qu'est l'identité tout court, mais pour le judaïsme, c'est encore plus flagrant. Personne n'est capable de vous dire à quoi ça tient, si ce n'est à un certain rapport au texte.
L'identité, on va en reparler dans un instant avec le repli identitaire et donc le communautarisme dans un instant. Juste encore sur la réinterprétation notamment des textes religieux. Emmanuel Macron l'a dit il y a quelques jours. La transmission de l'histoire religieuse pose question quand il s'agit des imams étrangers soupçonnés de radicalisme en France. Le chef de l'État suggère d'ailleurs de les remplacer par des imams formés en France. Qu'est-ce qu'il y a dysfonctionner à vos yeux, parfois, dans la transmission de l'islam en France?
En fait, pour moi, la question, c'est moins de savoir si ces gens sont formés en France ou formés à l'étranger, que de savoir de quelle manière la France et le narratif français va entrer en dialogue avec la façon dont on enseigne l'islam. Parce
encore
qu'on le sait.
Encore faudrait-il définir un islam de France, ce qui est une vaste question à laquelle personne n'a répondu encore précisément.
À laquelle on ne répond pas. Et d'ailleurs, le fait d'être formé en France n'est pas toujours la garantie que ces imams s'exprimeraient par la voix de la modernité, du débat ou des valeurs qui sont les valeurs traditionnelles de la France ou historique. historique. Donc, moi, la question, c'est pas tellement de savoir est-ce qu'ils sont formés en France, mais de quelle manière la France entre en dialogue avec leur islam, de quelle manière, finalement, la France sort de leur parole religieuse. Vous voyez, il y a des, finalement, ce qui est passionnant dans la pensée religieuse quand elle est vivante, c'est qu'elle est en permanence nourrie de la rencontre avec une histoire. En fait, elle devient problématique, la pensée religieuse, quand elle se raconte en décontamination de l'autre, quand elle s'imagine qu'elle est pure de toute influence. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de penser de quelle manière l'islam, comme toute autre tradition religieuse en France, entre en dialogue avec le monde dans lequel elle vit.
Et avec le politique aussi.
Et avec le politique, parce que c'est une question éminemment politique. Voilà, on vit dans un pays où il y a des piliers qui sont des piliers fondateurs de nos identités. La possibilité du dialogue et la possibilité du désaccord héritier des Lumières et la possibilité de l'égalité homme-femme, le devoir de l'égalité homme-femme dans notre société. C'est passionnant de savoir comment tout ça se traduit en dialogue avec la tradition religieuse.
Sauf qu'en France, pour le religieux, en France, au nom de la séparation des pouvoirs, on n'aime pas tellement que un prêtre, un imam ou un rabbin parle de politique. Or, vous, Delphine Horwiller, je rappelle que vous êtes rabbin et vous semblez mettre un bémol à ce dogme en France, à la lecture de ce livre « Comprendre le monde ». Remettre en cause la séparation des pouvoirs quand on parle de religion et de politique, vous le faites au nom de l'évolution du mouvement du monde?
Oui, mais je crois que en réalité, il faut pas qu'il y ait de malentendu. Moi, je suis très attachée à l'idée d'une séparation entre les pouvoirs,
très laïque,
et je pense que c'est une bénédiction pour nous que de vivre dans cette laïcité.
Et cependant, la parole du religieux doit le religieux peut s'approprier le politique.
Pas s'approprier, mais ne peut pas faire autrement qu'être conscient que sa parole est politique dans la mesure où elle engage la société, les gens qui l'écoutent, et que cette façon dont ils vont entendre cette parole dit quelque chose des citoyens qui vont devenir. Je crois que la parole religieuse est, que ça lui plaise ou non, qu'elle le souhaite ou pas, toujours politique au sens noble du terme.
Mais les politiques aussi empiètent sur le discours religieux.
Oui, parfois empiètent sur un discours religieux ou disons, s'imagine que voilà, il va falloir. Je voudrais pas parler au nom des politiques. Moi, je sais en tout cas que ma parole religieuse a conscience, oui, que notre parole a des répercussions politiques qu'il faut prendre en compte.
Mais quand Emmanuel Macron dénonce le séparatisme, comme il l'a fait dans son discours à Mulhouse il y a quelques jours, c'est bien l'islam politique qui est en cause en France.
Oui, mais je crois que cette parole, elle était attendue, notamment les termes qu'il a utilisés. On a beaucoup parlé de communautarisme, et j'ai beaucoup parlé de communautarisme ces dernières années.
Pourquoi cette précaution sémantique, ces champs lexicaux, on va les étudier, séparatisme, communautarisme, d'autres parlent d'islamisme. Pourquoi ces précautions oratoires?
Je crois que ces précautions oratoires, elles sont surtout dues au fait que plus personne ne sait ce dont on parle quand on parle aujourd'hui du communautarisme. Alors certains diraient la même chose du séparatisme, et c'est peut-être pas faux, mais en tout cas ça a l'intérêt de mettre en lumière à quel point on ne sait plus de quoi on parle aujourd'hui en utilisant ces mots. Moi j'ai souvent dit ces dernières années que j'ai eu l'impression de grandir dans une France où personne ne me définissait comme étant membre d'une communauté. J'étais juive, française, juive, et puis tout à coup une bascule s'est opérée que je serais bien incapable de dater. C'est difficile de dater. En fait, peut-être effectivement les années 90, un virage qui s'engage où tout à coup, on parle de nous ou nous parlons de nous-mêmes comme étant membres d'une communauté. Et une communauté, ça peut être un mot tout à fait positif finalement. En tout cas, dans le monde anglo-saxon où j'ai vécu pendant bien des années, vous le savez, c'est un mot très chargé de façon très positive. Ça veut dire la volonté de s'engager avec des gens qui vous ressemblent et ça peut sembler totalement légitime. Là où il y a une bascule dans le communautarisme qui est difficile à définir, c'est quand les gens tout à coup s'imaginent que leur communauté dit tout d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus que leur communauté. Et c'est malheureusement ce qui a semblé se passer en France ces dernières années. Moi, je compte pas le nombre de fois où j'ai dit, et pardon pour répéter encore cette phrase aujourd'hui, que je ne suis pas que juive. Et ces dernières années, j'ai eu le sentiment que quand je parlais, je n'étais plus que cela, et qu'on oubliait à quel point nos identités sont complexes, protéiformes, et que non seulement on n'est pas que quelque chose, juif, musulman ou chrétien, mais en plus, il n'y a pas une seule façon d'être juif, musulman ou chrétien, et que la pluralité des voix doit à nouveau être entendue pour en fait décloisonner ces identités qui finissent par nous étouffer.
C'est là où le rabbin n'est pas prosélyte.
Le judaïsme ne l'est pas en général, et je pense qu'effectivement un autre problème du séparatisme et du communautarisme, c'est qu'on nomme pas aujourd'hui, c'est peut-être aussi le problème du prosélytisme. Moi je dirais qu'il y a deux problèmes aujourd'hui dans les identités religieuses. Il y a effectivement le prosélytisme qui est potentiellement un vrai problème tentative de s'imposer à tous une idée comme étant la vérité, avec un grand V. Et puis, autre chose, c'est l'obsession de la pureté, dont on disait un mot il y a un instant. Je crois qu'on est aujourd'hui vraiment menacé par ces obsessions de pureté qui nous ont assaillis de toutes parts.
Et cette obsession de pureté, ce repli sur soi, cette revendication identitaire, elle s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est l'un des chapitres de ce livre que vous publiez chez Bayard, Delphine Horviller, Comprendre le monde. Les réseaux, là aussi, sont communautaires, puisqu'au final, on ne parle jamais qu'à soi sur les réseaux, et que de soi et entre soi sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est malheureusement un des effets terribles qu'on a constaté ces dernières années. Cet outil qui aurait pu être, ou qui doit être, la possibilité d'une rencontre avec l'autre que soi, finit par devenir l'objet d'un enfermement. C'est-à-dire qu'on est finalement en contact uniquement avec des gens qui ont lu les mêmes livres, pensé les mêmes choses, s'expriment de la même manière. On a une difficulté à accepter la contradiction, c'est-à-dire ce qui aurait pu être un lieu finalement de désaccord, la possibilité de ne pas tomber d'accord, devient finalement un endroit où on prend à témoin un tiers de la façon dont on va écraser l'argument d'un interlocuteur.
Il faudrait peut-être presque donner des cours, non, aux plus jeunes d'entre nous, au collège, au lycée, pour utiliser ces réseaux sociaux et pour entendre ce qu'ils disent de la réalité.
Oui, en fait, et puis il faudrait aussi penser la façon dont on s'y exprime. Vous savez, cette idée de s'exprimer en si peu de signes sur les réseaux sociaux qui a fait le succès de certains d'entre eux a finalement piétiné la possibilité de la complexité dans notre façon de dire le monde. Comment est-ce qu'on réintroduit de la nuance? Voilà, j'ai une pensée particulière pour Jean Daniel qui vient de nous quitter, je crois, à qui cette idée était très très chère, cette idée qu'on devait en permanence et sur tout support introduire de la nuance. Finalement, les réseaux sociaux ne nous permettent pas de faire ça, et je pense que c'est extrêmement important, voilà, que la nouvelle génération soit consciente de ces limitations et de comment est-ce que l'histoire est toujours beaucoup plus compliquée, d'où l'importance de se raconter des histoires.
Delphine Horviller, un mot de vous pour devenir rabbin, rabbine, je ne sais pas très bien.
On peut dire les deux.
Bon. Pour devenir rabbin ou rabbine, il a fallu aller vous former aux États-Unis pendant 5 ans, car les États-Unis, eux, acceptent la formation des femmes rabbins. Où en est la France dans ce domaine ?
Alors, les choses bougent en France, puisque maintenant, il y a une nouvelle génération de rabbins libéraux, de rabbins progressistes, qui sont en train d'être formés partiellement en France et un peu en Angleterre. Pour l'instant, effectivement, il fallait partir à l'étranger pour recevoir cette formation, parce que la seule formation rabbinique qui était offerte en France, dispensée voilà par le consistoire, et donc la mouvance orthodoxe actuelle du judaïsme, n'accepte pas l'idée de femmes exerçant la fonction rabbinique. Mais les choses changent lentement. C'est vrai que les communautés progressistes et libérales se développent en France et qu'il y a de plus en plus de rabbins libéraux et de plus en plus de jeunes femmes. Moi, j'en reçois beaucoup dans mon bureau.
Vous êtes 4 femmes rabbins aujourd'hui en France. Vous êtes la porte-voix du judaïsme libéral en France. En quelques mots, qu'est-ce qui caractérise ce judaïsme libéral en France ?
Je crois que le judaïsme, on va dire progressiste dans son ensemble, non orthodoxe, est un judaïsme qui est attaché très fortement à l'évolution de la loi dans le temps et la prise en compte de l'histoire et des contextes nouveaux dans la façon dont on interprète nos textes. C'est pas vrai seulement dans le judaïsme, c'est vrai dans toutes les traditions religieuses. Les voix progressistes sont celles qui disent « nous avons été capables de prendre en compte un contexte nouveau pour faire évoluer nos lois et nos interprétations ». Alors une illustration effectivement très simple de cela, c'est la question des femmes. On considère que les femmes n'ont plus aujourd'hui le rôle, la place qu'elles avaient dans la société il y a des centaines d'années.
En ce sens-là, vous n'êtes pas un rabbin comme un autre.
Non, mais on est de plus en plus nombreux à peut-être à ne pas être des rabbins.
Mais le patriarcat est encore très fort.
Dans toutes les religions, la question des femmes, ça reste le nœud gordien. Si on ne fait pas de place aux femmes, on ne fait pas de place aux autres.
Et on lira tout cela, et notamment dans ce dernier livre que vous signez, Delphine Horviller, Comprendre le monde, dans la collection des petites conférences de chez Bayard. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Merci et bonne journée. Il est 8h39.